Radio Capi, grand témoin. Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Antoine Manda-Tchéboa, ancien chroniqueur à l'ex-Télé Zaïre, aujourd'hui RTNC. Aujourd'hui, il est professeur d'université, écrivain, chercheur, musicologue, consultant auprès d'organisations internationales, journaliste et directeur artistique honoraire au marché des arts du spectacle africain, Massa en sigle, créé par la francophonie. Ça fait trop de casquettes, monsieur Manda-Tchéboa, pour une seule personne.
Oui. Beaucoup de casquettes qu'on ne porte pas tous les jours et en même temps.
Mm-hmm. Alors, Manda-Tchéboa, Antoine Manda-Tchéboa, je l'ai dit, vous êtes ancien chroniqueur à l'ex-Télé Zaïre. On ne vous voit plus à la télévision. Pourquoi vous avez quitté les petits écrans?
Ah ben ça, c'est trop dire. Vous êtes en train de me chasser assez rapidement.
Non, on ne vous chasse pas, parce que ça fait longtemps qu'on vous a vu.
Oui, effectivement.
Moi,
c'est le mot ex qui me fait tiquer, parce que bon, bah, je suis encore agent de la RTNC. J'étais en détachement pour raison d'appel à une fonction internationale. J'ai été en Côte d'Ivoire, basé en Côte d'Ivoire, pendant plus de 12 ans, où j'ai eu à assumer les fonctions de directeur artistique du marché des arts du spectacle africain, en sigle Massa, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mm-hmm. qui est une structure internationale hein, de la culture qui a été créée par la francophonie, les ministres de la francophonie, et qui a comme vocation la valorisation de la dimension économique des arts du spectacle, c'est-à-dire la danse, le théâtre, la musique.
Mais pourquoi le choix sur vous pour aller diriger cette structure?
Bah écoutez, j'ai répondu à un appel à candidature internationale.
Il y avait
38 candidats mm-hmm. et c'est la mienne qui était retenue. Et je m'en réjouis parce que bon, finalement, on s'en est sorti pas mal. Et je pense que tout au long de notre mandat, au sein de cette structure, on a fourni le meilleur de nous-mêmes pour que ce mandat, disons, puisse donner les fruits attendus. Nous avons eu à organiser à peu près 7 éditions. En tenant compte du fait que c'est un marché bisannuel. C'est un marché des arts, hein, des arts du spectacle, qui se tient tous les 2 ans en Côte d'Ivoire.
La RDC participe aussi à ce marché?
Effectivement, puisque ça concerne tous les pays de la francophonie.
Mais on n'en parle pas trop en RDC.
Non, depuis un moment, il faut dire que les activités se sont arrêtées. À la suite de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, vous savez que la Côte d'Ivoire a traversé des moments assez difficiles et un certain nombre d'organismes internationaux ont même plié le bagage. Je pense ici à la BAD qui avait son siège, qui l'a encore en Côte d'Ivoire, mais qui à un moment donné s'est déplacé. Mais nous, on était restés. Sauf que par rapport à nos objectifs, eh bien le climat sociopolitique de la Côte d'Ivoire ne s'est pas prêté favorablement à la continuation de nos activités en attendant que la situation se stabilise.
Soit un peu plus stable.
Voilà.
Vous êtes un ancien chroniqueur, vous avez présenté, vous êtes parmi les anciens présentateurs vedettes de l'émission Caribou.
Je suis pas ancien chroniqueur, je voudrais bien insister parce que je le suis
présentateur.
Oui, c'est vrai que pendant un moment.
Vous ne présentez plus l'émission.
Oui, évidemment, on a vieilli aussi. Il faut dire que ça fait quoi, 37 ans. De radio et télévision, c'est quand même pas mal, ça. Hein, je pense qu'il est temps de peut-être penser à faire autre chose. C'est ce que je fais en ce moment. On se consacre maintenant à la réflexion.
Vous êtes tourné vers l'écriture.
Oui, l'écriture, la recherche particulièrement, parce que bon, notre fonction de chercheur et enseignant aujourd'hui, forcément, nous confine à travailler beaucoup dans la poussière de bouquins, qui est une activité assez exaltante, mais pas facile du tout, et ça nous bouffe pratiquement tout notre temps.
Et jusqu'à ce jour, vous avez publié 24 ouvrages.
Ben, 24 ouvrages, évidemment, il faut dire que tout ça n'a pas été écrit en un jour, on a travaillé longtemps, un de mes premiers livres a été publié en 1996, c'est le fameux livre Terre de la chanson, qui a été édité à Louvain-la-Neuve par les éditions du Culot, en collaboration avec Afrique Édition, ici à Kinshasa, et puis après, pendant toute ma période d'absence, en dehors du pays, j'ai mis à contribution cette période pour renforcer mon écriture, et donc j'en suis à 24, et là j'ai une douzaine d'ouvrages sous le bras, que nous allons bientôt porter sur les fonts baptismaux, parce que bon, ces livres venaient d'être édités par les éditions L'Harmattan à Paris en fin de l'année 2012. On n'a pas eu le temps d'organiser la communication. Alors bientôt, à partir du 26 de ce mois, nous commençons à présenter un en un. Donc chaque mois, on aura un livre à présenter au Centre Wallonie-Bruxelles et aussi dans certaines institutions universitaires de la place.
Et dans vos ouvrages, vous parlez beaucoup plus de la musique.
Non, c'est... Bon, écoutez, je travaille en direction de plusieurs champs épistémiques. Évidemment, la musique a été un peu, si vous voulez, mon premier champ de recherche, parce qu'elle correspond avec ce que je faisais comme chroniqueur de musique. Alors j'ai voulu, à travers tous ces ouvrages, fixer par écrit un certain nombre d'expériences que moi-même j'ai vécues. Dites-vous bien que ma fonction de directeur artistique du MASA m'a permis de visiter pendant 12 ans les 53 pays africains. Chaque année, j'y allais deux ou trois fois. Donc, je connais pratiquement toute l'Afrique.
Vous avez de la chance?
Oui, on a de la chance. Et quand on a une telle chance, je me suis dit que c'est un devoir d'intellectuel de pouvoir partager avec les autres une telle expérience. C'est pour ça que j'ai mis tout ça par écrit. Donc, vous allez retrouver mon regard sur les cultures d'Afrique. Pas forcément des musiques, mais c'est toutes les traditions, les us et coutumes de peuples d'Afrique, autant de peuples que j'ai rencontrés au cours de mes voyages. Bon, en dehors de ça, je travaille beaucoup plus sur la dimension transversale de l'imaginaire entre l'Afrique et les Amériques, parce que je suis américaniste aussi. Ma thèse de doctorat justement fait porter sur l'apport de l'imaginaire des Africains dans la créolisation de mentalité à Cuba, en Guadeloupe, Martinique, Haïti, Santo Domingo, etc. Aux États-Unis aussi, au Brésil, Colombie, Venezuela, etc. Et donc c'est un champ qui m'intéresse beaucoup parce que je cherche à savoir ce qui s'est passé entre nous et toutes ces civilisations post-colombienne, enfin pré-colombienne d'abord et post-colombienne, parce que il faut dire qu'à un moment donné, ces civilisations ont reçu quelque chose de l'Afrique à partir d'un fait malheureux, un fait sanglant, c'est la traite des nègres et l'esclavage qui s'en est suivi.
Et donc on va découvrir tout ça dans...
Oui, c'est dans ces... Il y a quatre ouvrages qui sont consacrés à cette thématique, mais sous des angles différents, parce que je suis aussi spécialiste des droits de l'homme. Autant pour moi, je voulais dire que la traite négrière n'a pas été une rencontre cordiale. Ça n'a pas été une rencontre d'amitié, mais ça a été un crime contre l'humanité, parce que ces gens sont venus capturer nos ancêtres.
Vous dénoncez ça aussi.
Oui, je dénonce tout ça et j'étudie aussi les conséquences juridiques justement de tous ces actes, 5-6 siècles après, pour savoir ce qu'on peut en tirer comme bénéfice peut-être. La traite a frappé toute l'Afrique. Et pour mener à bien cette étude, j'ai été obligé moi-même de refaire un petit peu... tout ce circuit à partir. J'ai côtoyé pratiquement tous les ports d'Afrique par où on a embarqué les esclaves depuis l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, du côté de l'océan Indien. J'étais à Madagascar, j'étais à Zanzibar, j'ai fait le Kenya, la Tanzanie, etc., l'île de Mozambique, et tout ça. Et après, je suis allé dans les Antilles, aux Caraïbes, donc Guadeloupe, Cuba, Martinique, etc. Et je suis remonté en Europe dans les ports français, et surtout les ports anglais et les ports portugais à Belém, qui ont servi de point de départ des bateaux négriers. Alors tout ça, c'était pour comprendre comment s'est structurée cette opération qui a été... rationnellement monté, parce que bon, il faut pas...
Vous
dire
faites un peu l'avocat de l'Afrique?
Je suis l'avocat de l'Afrique, mais surtout l'avocat de l'humain. L'humain, parce qu'il s'agit de droits humains qui ont été violés, bafoués pendant plus de 5 siècles. et ce, à une époque où, pendant 3 à 4 siècles, s'est constitué ce qu'on appelait l'Europe des Lumières, qui était censée nous apporter la lumière à travers ses brillantes intelligences, mais hélas...
C'est un grand travail que vous faites là, mais vous n'avez pas rencontré des difficultés.
Beaucoup de difficultés au niveau de la mise
en... Pour avoir accès à l'information.
Oui, d'abord ça, parce que il s'est agi quand même d'une thèse de doctorat. Au départ, il faut avoir une bourse, que je n'ai pas eue. Et il faut dire que, bon, j'ai peut-être tiré un meilleur parti de mes fonctions dans l'organisation où je travaillais, parce que cette organisation m'a permis de beaucoup voyager. Mm-hmm. Et j'essayais un petit peu de combiner à la fois mes charges professionnelles et mes recherches scientifiques. Et donc, heureusement qu'il y avait quand même ça. C'est la francophonie, en fait, qui, d'une manière un peu indirecte, m'a permis de faire aboutir ce travail. La deuxième difficulté, c'est les interlocuteurs. Vous savez, les gens ne sont pas aptes à vous ouvrir leur cœur comme ça directement. Il y a tout un tas de techniques qu'il faut mettre en œuvre pour pousser les gens à se livrer à vous, et particulièrement les responsables de différents sites que nous avons visités. En Afrique, c'est plus ou moins facile parce que, étant victime, je me suis aperçu que...
Ils étaient ouverts.
Oui, ils sont ouverts parce que, pour eux, il s'agit de dénoncer un méfait dont leurs ancêtres étaient victimes. Mais on ne se contente pas que de ça parce que...
Vous avez cherché un autre sens.
Oui, en multipliant les interlocuteurs.
Mais d'où vous est parti ce déclic-là de vous dire, maintenant je veux me consacrer à l'écriture?
C'est un hasard, hein. Il faut dire que c'est un hasard. Et c'est parti, comme par hasard, à partir d'un fait musical. Mm-hmm. Donc c'est un peu ma carrière de chroniqueur qui m'a mis sur ce chantier. Tout est parti de la rencontre avec le groupe Kassav. Vous savez, Kassav est venu 2 fois au Congo. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance, c'est peut-être le mérite d'avoir été membre du comité d'organisation de ces tournées. À l'époque, j'étais président de chroniqueur de musique. Et donc, j'ai rencontré les artistes de Kassav, qui sont des artistes formidables, qui ont créé un style de musique assez original. Parce que le zouk qui nous amène, c'est un mélange à la fois de musique de la Caraïbe, inspirée de différents standards africains, mais qui est basé sur le rythme 1, 2, 3, 4, donc qui est commun à nous. Et bon, quand on a eu des échanges avec Jacob Desvarieux, Jocelyne Berouard et certains autres membres de ce groupe, je me suis rendu compte que parmi eux, il y avait des gens qui étaient très conscients du fait qu'ils venaient d'Afrique. Quand tu écoutes certaines chansons, ils s'attaquent au bateau négrier, ils s'attaquent à l'esclavage. Alors moi, je me suis dit, tiens, mais là, on est sur une piste qu'il faut peut-être creuser, mais l'idée n'est pas venue tout de suite, mais c'est plus tard. Quand j'ai commencé à écrire, non pas sur l'esclavage, mais plutôt sur le groupe. Mm-hmm. Mais c'est dans mes recherches m'ont amené, quelque part, à tomber sur des épisodes assez douloureux dans leur cheminement. Et c'est là que, tout d'un coup, il y a un déclic qui... a surgi en moi, où je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi ne pas exploiter ce filon? Et j'ai commencé comme ça, par petits bouts. Et à un moment donné, je me suis dit, j'abandonne un peu l'aspect musical qui pour moi me paraissait évident, hein. Donc Kassav, c'était un groupe international qui avait réussi à conquérir le monde entier, qui avait inventé le zouk, et tout ça, bon, en quelques pages, j'avais fini d'écrire tout ce phénomène, et j'ai commencé maintenant à creuser l'aspect traite négrière, esclavage. Là, je vous dis que j'ai produit un travail de 865 pages en format A4, ça c'était ma thèse, en 2 tomes, et en format livre, ça nous donne 4 tomes.
Wow.
4 tomes d'ouvrages. 3 viennent de sortir. Il y a un 4e qui va sortir à la fin de l'année.
Et vous vous enfermez pendant combien de temps pour un ouvrage?
Non, mais il faut dire que tout ça m'a pris 8-9 ans. Parce que, bon, pas tous les jours, bien sûr. On est partageant son travail, le travail institutionnel, le travail scientifique, etc. Et donc, on y est quand même arrivé. Hein. Il faut dire qu'on arrive toujours à s'aménager un temps de sommeil, un temps de repos, etc. Mais sauf que c'est un travail assez difficile, dans la mesure où Il s'agit d'aller fouiller dans la mémoire.
Alors, Manda Tchéboa, vous êtes revenu au Congo pour vous y installer ou êtes revenu juste par rapport au colloque sur
Non, je suis rentré chez moi. Donc, je peux pas dire que je viens m'installer ici. Je suis installé au Congo. Et le Congo est mon pays. Je n'en ai qu'un seul. Je le porte partout où je vais. Donc, on est revenu. Maintenant, on s'occupe un peu de tout ça. C'est l'enseignement, c'est la recherche surtout.
Abidjan, vous viviez avec votre famille?
La famille m'a rejoint un peu tard quand même. Il faut dire parce que quand je suis parti, j'étais tout seul. Étant donné que j'avais des enfants en bas âge, certains étaient...
Vous en avez combien, en fait?
J'en ai 5, hein, j'en ai pas beaucoup. j'en ai 5. Bon, maintenant, presque tout le monde est à l'université. Il y en a qui ont terminé. Il y en a qui ont embrassé la carrière de papa. Mm-hmm. Parce qu'il y a un qui est journaliste à Télé 50. Et bon, les autres aussi sont sur les mêmes traces. Ils vont peut-être faire autre chose, l'économie ou je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Donc, je n'ai plus d'enfants en fin de scolarité primaire ou secondaire.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ben, écoutez, moi, dans la vie, je n'aime pas paresser. Et donc, moi, j'aime bien tous les gens qui travaillent, les gens honnêtes et les gens qui sont sincères et cordiaux à l'égard des autres.
Radio Capi, grand témoin.
Tous ceux qui viennent de nous rejoindre, grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Antoine Manda Tchéboa. Il a plusieurs casquettes, professeur d'université, écrivain, chercheur, musicologue, consultant auprès d'organisations internationales. Il est aussi journaliste. Justement, on va parler de votre parcours journalistique à la RTNC, la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Vous êtes journaliste de formation?
Disons que je suis homme de radio et de télévision. Journaliste de carrière. Je n'ai pas fait l'ISTI à l'époque, parce que nous c'était ça, mais j'ai plutôt fait l'Institut National de la Communication Audiovisuelle en France. Et parce que nous qui travaillons dans... qui avons eu la chance de travailler à l'époque où nous la coopération entre la radio et télévision congolaise était encore... plus étroite avec l'ancien ORTF et l'OCORA, hein, l'Office de coopération radiophonique de l'époque, eh bien, nous, à notre époque, on avait la chance de bénéficier des bourses qui nous permettaient d'aller nous former à l'étranger. Et c'est ainsi que, au cours de notre génération, on a eu cette occasion d'aller plusieurs fois nous former dans des écoles spécialisées et de journalisme, mais aussi de la communication audiovisuelle, parce que dans la communication audiovisuelle, vous avez plusieurs métiers. Vous avez le métier de caméraman, de preneur de son, de réalisateur, de monteur, tout ça, et de documentariste aussi, multimédia. Donc nous, on a eu la chance de faire tout ça. Mais sur le terrain, moi je viens d'une... ma source, hein, à l'origine, c'était la station provinciale de la RTNC Katanga, à Lubumbashi. Et nous étions une petite équipe polyvalente. Et au moment où nous, on commençait il y a à peu près 48 ans, disons 38 ans notre carrière, on n'était pas plus de 10 dans une rédaction. C'est-à-dire que nous étions à la fois agents des programmes, c'est-à-dire qu'on produisait des émissions, des programmes radiophoniques, animation d'antenne, tout ça. Et en même temps, on présentait les bulletins d'information, donc le journal, à la radio et à la télévision.
Vous avez commencé à Lubumbashi?
À Lubumbashi.
Et Lubumbashi, vous êtes venu à Kinshasa?
À Kinshasa, en fait, c'est par un coup de hasard, ce qui fait que la station nationale qui d'abord émettait à partir de la Gombe ici, sur le boulevard du 30 juin, c'est là où il y avait l'ancienne station de la RTNC, était transférée à Lingwala, avec la construction, l'avènement de la construction de la cité de la RTNC. Mm-hmm. Alors voilà, qu'on se retrouve avec un beau bijou entre les mains, mais il n'y avait pas de personnel technique qualifié. Et nous, on arrive de France, on est tout fraîchement formés et tout ça. Et le ministre à l'époque, je me souviens, c'était le ministre Oumba Diloutete, je pense, face à ce besoin, a signé un arrêté qui d'office nous affectait ici. Donc du coup, on n'est plus retourné à Lubumbashi, d'où nous étions originaires. Et donc nous sommes restés depuis jusqu'à ce jour.
Et quand vous êtes arrivé à Kinshasa, vous avez commencé déjà avec une émission musicale ou bien
non, à l'époque, nous étions à la rédaction, le journal télévisé, le journal parlé. C'est nous, Kibambi Shintoa, moi et une troisième personne, Chilonda, Guilain Chilonda, Chamulamba. Tous on vient de Lubumbashi. Nos aînés, c'était aussi Ngongo Kamanda, Denis et tout ça. Et là, nous étions affectés au journal télévisé, radio et télévisé. Nous présentions tous les bulletins d'information de dernière heure. Pour une raison simple, c'est qu'on a profité de la proximité qui était la nôtre, parce qu'on était logé à l'hôtel Invest qui est là, qui était destiné à ça à l'époque. Oui. Bon, alors c'est nous, du coup, qui étions chargés de boucler les journaux de fin d'antenne à la radio, à la télévision à 23h et à la radio à minuit. Mmh. Et voilà, on l'a fait pendant très 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 longtemps. Mais parallèlement à ça, j'ai peut-être oublié de vous le dire, c'est qu'en fait nous avons été formés en France comme formateurs. On était formateurs chacun dans une spécialité donnée, et c'est nous la première génération de formateurs qui était affectée au studio école. De Sevosa qui est devenu lycéa aujourd'hui. Okay. Donc pendant autant d'années, on était à la fois journaliste, formateur.
Formateur, c'était quoi votre spécialité?
Moi, je suis formateur en polytech. Hein. La polytech, c'est la, si vous voulez, la formation de médiathécaire. Tous les métiers qui s'occupent de l'archivage, des supports audiovisuels, hein, tous les supports, audiovisuels et scripto, tout ça.
Dès la rédaction, vous vous retrouvez à la musique?
Bon, la musique, non, c'est pas un hasard non plus. Bon, ça aussi, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire qui remonte à Lubumbashi. Je vous ai dit que nous étions polyvalents parce qu'on était agent de programme, on animait les tranches de musique, forcément. Et moi, j'avais deux émissions à l'époque. Il y a une qui s'appelait Le secret de la discothèque, qui passait tous les jeudis soirs. Et une autre était une émission un peu, si vous voulez, l'équivalent de ce qu'on appelait ici Tango Yabawendo, que moi je présentais en français, en province. Et tout ça, ça fait que ça a été pour moi des opportunités pour développer mon goût de la recherche, parce que c'était pas facile d'animer ce genre d'émission dans la mesure où ça vous obligeait à aller écouter un fond sonore qui remontait parfois à 30 et 40 ans, parce que c'est le début de la musique congolaise, c'est-à-dire entre les années 40, 42, 43, 49, jusque autour des années 70 à l'époque, pendant qu'on était encore là. Et ce travail-là n'est pas facile. C'est peut-être de là que me vient aussi le goût de la recherche, parce que j'étais encore tout jeune.
Écouter, décortiquer, analyser.
Écouter, décortiquer, c'est des musiques que je découvrais. Hein, il faut dire, quand tu écoutes les musiques des années 40, tu ne sais même pas, tu n'es peut-être pas encore né à l'époque. Il faut écouter, chercher aussi des informations qui allaient avec, parce que il faut dire que c'était pas un travail facile dans la mesure où on n'avait pas une documentation qui allait avec. Mais ce que j'ai fait, c'est plutôt recouper des informations auprès de certains collègues avec qui on travaillait. C'est là que je voudrais rendre un hommage à une personne qui m'est très chère, qui doit nous avoir quitté, qui doit avoir quitté le monde depuis un bout de temps. C'était un certain Papa Kazadi, qui à l'époque était témoin de cette époque, qui m'a fourni pas mal d'anecdotes, beaucoup d'informations. J'étais tout malheureux par rapport aux collègues qui étaient à Kinshasa, qui eux avaient la chance de vivre avec les acteurs de l'époque, parce que tous ces musiciens étaient encore en vie, ils étaient à Kin et tout ça. Nous, on était en province, on n'avait pas beaucoup de contacts étroits. Mais je m'en suis sorti parce que j'ai animé ces émissions peut-être pendant 4, 5 ou 6 ans. Et j'avais laissé un tas d'écrits, hein, parce que j'avais écrit... Toutes nos émissions étaient écrites, hein, ça je tenais à le dire. Moi, quand je vois des collègues aujourd'hui qui passent à l'antenne sans aucun papier, moi, ça m'effraie. Hein, je me dis, mais peut-être que le métier a changé ou que les règles du jeu ont changé, mais je sais pas. Mais nous, toutes les émissions étaient écrites, même le bonjour. C'est peut-être ça qui donne ce caractère assez rigoureux qu'on avait dans le travail qu'on faisait à l'époque.
Alors parlons de Caribou Variété. C'est vous qui avez choisi d'être à la présentation
non,
de cette émission.
Non, ça c'est encore une autre une longue histoire. C'est une aventure assez...
Brièvement.
Oui, Caribou Variété, il faudrait que c'est Chitenge Sana, hein, notre grand frère bien-aimé qui nous a quittés, qui était directeur de programme, hein, télévisé à l'époque. qui voulait créer des tranches d'émissions, un peu comme on en connaît ailleurs. Maintenant, je crois qu'on a repris la même formule. C'est des tranches qui allaient de 8 heures à midi, et puis de midi à 15 heures, etc., à l'intérieur desquelles on avait des sous-tranches, etc. Mm-hmm. Alors, il lui est arrivé cette idée de créer Caribou Variété à partir d'un mot swahili, Caribou, soyez les bienvenus, qui est un terme qui est chargé de convivialité et de bonne humeur et tout ça. C'était pour lui une façon d'apporter sa touche dans la grille de programme. Okay. Alors, à l'intérieur de cette grande tranche que nous avions le dimanche, qui s'appelait le Caribou, hein, il y avait Caribou Environnement, Caribou Cuisine, Caribou Koumeza, je crois que
Caribou
c'est.
Caribou Koumeza.
Voilà. Et puis Caribou Variété, ça c'était moi. Et puis il devait y avoir un autre Caribou, je sais pas lequel, après moi, etc. Et donc voilà comment je me suis retrouvé dans cette grande tranche sur la base d'une autre émission que j'animais avant, qui était la chronique musicale. Non, l'invité du dimanche.
Oui, l'invité du dimanche,
voilà, ouais. C'était ça l'ancêtre. Mais avant ça, il y avait la chronique musicale de Kalonjingoy qui avait créé ça quelques années avant. Et lui est allé en formation à l'époque. Et puis Lukezo est arrivé, il a animé. Moi, j'ai remplacé Lukezo, okay. Voilà, dans cette dynamique-là. Voilà.
Ok. Et si je vous demandais quelle chanson vous aimeriez écouter en ce moment?
J'aimerais écouter Indépendance Chacha.
African Jazz.
African Jazz, parce que...
Grand Calais.
Oui, parce que cette chanson recèle, si vous voulez, une symbolique forte, c'est la liberté du peuple, des peuples noirs. Mm-hmm. C'est le premier hymne de toutes nos indépendances africaines. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que, vous savez que nos pays ont eu, la majorité des pays africains ont eu leur indépendance en 60. Et en 60, il n'existait pas d'hymnes nationaux dans tous ces pays. Et comme par hasard, c'est Kabasele qui a eu cette ingénieuse idée d'offrir ce morceau qui aujourd'hui sert un peu de repère à tous ces pays.
Voilà.
Toutes les frontières. Et tout ça tombe à une époque où le cha-cha-cha lui-même venait d'être créé à Cuba, hein, à partir de 1953. Et donc on n'était pas très très loin donc nous vivions en temps réel l'arrivée du cha-cha-cha au Congo peu après Cuba.
On va écouter Indépendance Cha-Cha de Grand Calais, puis on se retrouve juste après.
Indépendance Cha-Cha, Tosoumiye, Otil Poisa, Cha-Cha, Toubakidi, Otable Ronde.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Antoine Mandachebwa, ancien présentateur vedette de l'émission Caribou Variété. Il est né à Kananga en 1950. Il est docteur en droit international de l'université de Kinshasa. Antoine Mandachebwa, avant la petite pause musicale, on était en train de parler de votre émission Caribou Variété. Vous avez eu à rencontrer beaucoup de musiciens congolais. Comment étaient vos relations avec tous ces artistes?
Très très bonne relation et je m'en réjouis parce que moi je peux vous dire que j'ai eu une chance exceptionnelle, c'est-à-dire au moment où je prenais la direction de toutes ces émissions, non seulement à la radio, à la télévision aussi, parce que j'animais Variété samedi soir, Zaïre numéro 1, etc. Avec le Kayumbibeya, le concours, et à cette époque-là, on a eu la chance d'organiser des émissions historiques. Malheureusement, certaines ont disparu. Les émissions, c'était des grands plateaux où on mettait sur une même scène toutes les générations de la musique congolaise à l'époque, parce que beaucoup d'acteurs de cette époque étaient encore en vie, et donc on avait tout le monde, hein, les Wendo, les Madiata, les Antoine Kassongo, les Honoré Diengo, etc., tous les pionniers des années 40-50, puis ceux des années 60, ceux des années 70, etc., donc ils étaient en vie. Ils venaient d'ailleurs de réaliser en 74 une belle anthologie en deux volumes, la fameuse anthologie de la musique congolaise moderne, qui était financée par la présidence de la République à l'époque, et donc c'était dans cette dynamique-là. Alors, Kabasele était encore en vie. Malheureusement, il n'était plus sur scène, hein, donc lui avait presque raccroché à partir de 68 par là, mais il venait de temps en temps à la RTNC et je l'ai croisé plusieurs fois, Grand Calais, et à un moment donné, il avait une très grande ambition, il voulait créer, enfin, vous savez, c'était quelqu'un qui était toujours en quête de la perfection, la même perfection qu'il a conférée à son African Jazz, et il a failli presque en mourir, parce que lui, il avait rêvé d'un orchestre presque parfait, et il y est presque arrivé, parce que c'est l'African Jazz, en fait, qui est la matrice de la musique congolaise moderne d'aujourd'hui, qui a formé des artistes de très grands talents comme Rochereau, comme Nico. Deschaux, etc., et Moena et tout ça. Et alors, il voulait enregistrer une série d'émissions avec des violons, avec je sais pas quoi il pensait et tout ça. Il a réuni un certain nombre d'artistes au studio A de la radio à l'époque, hein, le studio d'enregistrement. Et il a travaillé, je l'ai vu travailler avec la même exigence, la même énergie pendant quelques semaines, et après il a abandonné. Il a abandonné parce que il se sentait tout d'un coup découragé. Il avait l'impression que les musiciens n'arrivaient pas à comprendre où il voulait les amener.
C'est que lui, il voulait. Peut-être qu'il voulait. Qu'il n'expliquait pas bien aussi ce qu'il voulait.
Non, c'était un grand maître. Il savait expliquer, mais les musiciens, je crois qu'ils n'avaient pas la dimension, sa dimension à lui.
Okay.
C'était quelqu'un d'extrêmement pointu. Une oreille absolue. Quelqu'un d'extrêmement exigeant d'abord vis-à-vis de lui-même et puis vis-à-vis des autres. Et je pense que c'est même pour ça que certains le fouillaient, parce que cette rigueur-là, qui avait un peu l'air d'une rigueur militaire presque, écoutez, ça faisait fuir beaucoup d'artistes, mais pourtant c'était dans leur intérêt. Et après, il est parti en exil. Et puis j'ai couvert sa mort quand il est mort. J'ai couvert sa mort ici. J'ai assisté pratiquement aux obsèques les plus importantes des grandes figures de la musique congolaise, presque tous. Et puis j'ai eu aussi cette malchance d'assister, et à défaut d'être carrément être mêlé aux dislocations les plus spectaculaires
des
orchestres. J'ai quelques exemples, c'est l'Oké Jazz, c'est Wenge, c'est Zaïko. Toutes ces dislocations, moi je les ai vécues de l'intérieur, parce que bon, j'étais la seule émission qui accueillait ces artistes, et donc j'avais les deux.
Mais c'est quoi le problème qui divisait ces orchestres? Leadership,
argent? Non, c'est le même problème, c'est depuis la fondation de notre musique, hein. Notre musique fonctionne un peu sur cette base, hein, depuis le début, hein, et c'est pas un phénomène nouveau. Donc, à l'origine, c'est vrai, il y a toujours ce problème de leadership, mais dites-vous bien que partout où il y a les artistes, une fois arrivé à maturité, il est très difficile de les garder ensemble. Ça, c'est impossible, parce que je pense qu'il est dans l'intérêt de chacun de chercher par sa propre initiative, sa propre lumière.
À prouver ce qu'il est capable de
faire.
Oui,
évidemment. C'est, à un moment donné, chacun, vous savez, l'ambition d'un artiste, c'est de se mettre en lumière, tout seul. Hein, c'est vrai, l'orchestre, ça sert un peu de plateforme, c'est la rampe de lancement, mais chacun rêve toujours d'être leader à la tête d'un groupe. Ainsi de, c'est comme ça que ça se forme les orchestres. Bon, évidemment, il y a aussi d'autres problèmes d'ordre économique. Évidemment, dans nos orchestres, la gestion financière n'a jamais été le cadet de soucis de nos dirigeants, parce que bon, dites-vous, bien que ce sont des artistes, c'est pas, ça a jamais été des gestionnaires, hein. Et cela est dû au fait que nos orchestres fonctionnent un petit peu sur le mode d'une famille, hein, c'est une famille, et non pas sur le mode d'une PME, parce que une PME a ses règles de gestion qui sont quand même assez rationnelles, assez rigoureuse, mais dans une famille, c'est plutôt la sentimentalité qui guide la dynamique d'une famille. Et par moment, le chef d'orchestre a tendance à vouloir traiter les autres comme ses frères, et il oublie tout de suite que c'est des travailleurs, c'est des pères de famille qui viennent là pour travailler à ses côtés, et qu'ils méritent salaire et tout ça. Bon, beaucoup de groupes ont fonctionné un peu comme ça, parce que les musiciens eux-mêmes, déjà à l'origine, il faut dire qu'ils ont travaillé en dilettante. Hein. Les orchestres du début des années 50-60, c'était pas des orchestres professionnels. Et les musiciens eux-mêmes, c'est des gens qui avaient plusieurs métiers.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des orchestres professionnels?
Bon, théoriquement, ils se disent professionnels, parce qu'ils sont censés ne vivre que de ça, de ce métier-là. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils continuent encore à fonctionner sur le mode de ce que je viens de décrire ici. Parce que vous ferez le tour de groupe ici, vous allez vous rendre compte que, en fait, le chef d'orchestre continue à traiter ses musiciens un peu comme des amis. Et parfois, il a tendance à vouloir même minoriser ceux qui l'accompagnent. Parce que moi, quand j'entends des expressions du genre, Naïb Saki va petit, donc c'est des petits, voilà. Hein, tu considères tes collaborateurs comme des petits, donc ça veut dire que tu ne leur accordes pas l'importance qu'ils méritent. Mm-hmm. Et cela se traduit aussi dans les faits, dans la manière de les rémunérer. Certains ne sont même pas rémunérés du tout. Vous avez des groupes qui voyagent ici, qui font beaucoup de voyages en Europe, mais qui vivent un peu des expédients. C'est plutôt ils vivent des faveurs des fans. Ou des frères qui vivent dans la diaspora. Et bon, ça c'est un phénomène nouveau qui vient d'apparaître et qui fait trop mal quand même à notre musique. Hein. Moi, j'aimerais le souligner. C'est-à-dire que à vouloir compenser un manque, on est en train de sacrifier l'aspect artistique et esthétique de la musique. Et finalement, ça risque de tuer assez rapidement la création artistique.
Ouais. Alors, de tous les musiciens que vous avez rencontrés, lequel vous a marqué?
Ah, beaucoup, hein, beaucoup. J'aime pas beaucoup me prononcer sur ce genre de trucs, parce que moi, je pense que dans le domaine de la musique, chacun est singulier. Quand vous voulez apprécier, dans le domaine de l'art en général, quand vous voulez apprécier une œuvre d'art, il faut l'apprécier en fonction de sa valeur artistique intrinsèque. Parce que chaque œuvre d'art, chaque artiste, c'est une expression particulière. Et il est très difficile d'ailleurs de comparer deux artistes, parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes sources d'inspiration. Ils peuvent peut-être avoir le même style, parce que eux-mêmes, ils s'inspirent d'une autre célébrité qui les a précédés, mais chacun est spécial. Et c'est pour ça que moi, généralement, quand j'apprécie l'artiste, je l'apprécie en fonction de son œuvre d'art et non pas dans une forme de comparaison mimétique, comme si on se livrait à un exercice arithmétique ou mathématique. Non, les choses ne fonctionnent pas comme ça dans le domaine de l'art. On est dans le domaine de la sensibilité, où la notion de la relativité est vraiment centrale.
Voilà. Alors Antoine Manda Tchiboua, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Vous êtes en ce moment dans une conférence, un colloque sur Franco?
Non, c'est pas un colloque. En fait, le colloque est une articulation d'une série de manifestations qui constitue ce qu'on appelle l'hommage national, qui est rendu à un de nos artistes le plus prestigieux, Luambo Makiadi. C'est une initiative de Monsieur le Premier ministre, Matata Ponyo, qui d'ailleurs en cela a été soutenu par le président de la République. République qui a accepté le patronage. Donc on a voulu célébrer un de nos artistes. Bon, évidemment, ça ne va pas s'arrêter là, hein. J'imagine qu'on en fera autant pour les autres, mais il fallait commencer quelque part. Et à l'intérieur de cette série de manifestations, j'ai été chargé de la direction, la conception d'un colloque scientifique international qui vient d'avoir lieu et qui réunit des chercheurs qui sont venus des États-Unis, d'Afrique du Sud, de Côte d'Ivoire, de Congo, Brazzaville, de Bruxelles, etc. Et plus les professeurs de nos universités. Mais à côté d'eux, on avait aussi des artistes, des guitaristes virtuoses comme Manu Akuaku, comme Jean-Pierre Nimi Zonga, ancien ministre, mm-hmm. mais qui lui aussi est musicien. On a fait Maïka Mounane et tout ça, qui ont voulu montrer au public en quoi la guitare de Franco était exceptionnelle. Toutes les innovations, les particularités de cette guitare. Alors, ça, on a eu droit à de très belles démonstrations. À côté d'eux, il y a eu aussi quelques témoignages des anciens collègues de Franco et des membres de famille qui ont apporté un nouvel éclairage. On a appris au cours de ce colloque, de la bouche même de la famille de Franco, sa vraie arbre généalogique. Hein, qu'on n'avait pas avant, hein, qui est très très complexe. On retrouve un Franco partagé entre trois provinces, le Bas-Congo, le Kassai et l'Équateur. Et tout ça, c'était quelque chose de très très passionnant.
C'est une belle initiative du gouvernement.
Très très belle initiative parce que, enfin, là, nous avons la certitude que le gouvernement s'occupe de tout le monde. Parce qu'à un moment donné, les gens se disaient, mais pourquoi seulement les léopards, et les autres, etc. Mais le gouvernement, c'est une église au milieu du village. Ben, c'est ce qu'il essaie de prouver à travers ce type d'opération. Il y en aura certainement d'autres.
Alors, un mot en guise de conclusion, Manda Tchiboua.
Ben écoutez, je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer devant votre micro. Voilà trois fois que je suis passé dans vos installations au cours de ce mois. Et à chaque fois, c'est toujours avec un plaisir renouvelé. Je voudrais appeler le peuple congolais à la cohésion, à l'unité nationale, à la fraternité tous azimuts. En ce moment où notre pays connaît des difficultés importantes et surtout que nous sommes à la veille de la signature d'un accord important demain à Addis Abeba. Je pense que c'est une occasion qui nous est donnée pour souder nos cœurs, pour nous aimer les uns les autres et renforcer la cohésion nationale.
Je vous remercie.
Merci.
Et bon dimanche.
À vous.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Antoine Manda Tchiboua, ancien présentateur vedette de l'émission Caribou Variété. Aujourd'hui, il est professeur d'université, écrivain, chercheur, musicologue, consultant auprès d'organisations internationales. Il est directeur artistique honoraire du marché des arts du spectacle africain, MASA. C'est une structure créée par la francophonie. Merci à Alain Goy qui était à la technique. Au micro, Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.